2024 a commencé, ce qui veut dire que le Vision Pro peut arriver à n'importe quel moment. Un nouveau produit, une nouvelle catégorie de produits, un nouveau système d'exploitation, une nouvelle approche présentée comme révolutionnaire, alors qu'on parle déjà d'une version 2 de Vision OS à la prochaine WDC au mois de juin. Notre invité, Baptiste Dajon, développeur évangéliste des technologies Apple chez Decathlon, il va nous dire pourquoi ceux qui ne croient pas à l'informatique spatiale n'ont rien compris. À suivre les dernières infos sur l'état d'avancement de Vision OS, une bêta 7 et puis plus rien depuis un mois, enfin si, mais elle n'est pas sortie de l'Apple Park. On va aussi reparler vidéo spatialisée, interface et clavier virtuel avec le tout premier test réalisé par notre confrère Brian Tong. Le journal de la semaine avec les infos de ce début d'année, avec notamment Copilot, l'étonnante appli Microsoft pour iOS, les bêta 2 des versions 17.3 des OS Apple et un concurrent du Studio Display chez Dell. Et puis le bonus exclusif Patreon, cette semaine, l'énigme Ferret. S'agit-il vraiment de la première mise en évidence des futures IA génératives Apple? Pour avoir le détail, patreon.com/iWeek. Jeudi 4 janvier 2024, il est 19h45. Bonne année 2024 à toutes et à tous.
Bonne année.
Bonne année. Bonne année.
Bonjour les amis, soyez les bienvenus pour ce premier épisode d'iWeek, la semaine Apple en 2024. Ici Benjamin Vincent, je vous souhaite et je nous souhaite tout le meilleur d'Apple et de l'écosystème bien sûr. Je pense d'abord à vous, évidemment les amis. Bonne année Gilles Dounès.
Bonne année Benjamin, bonne année Baptiste et bonne année Elie, et puis bonne année à tous nos auditeurs, tous mes voeux de découverte, de nouveaux produits, d'émerveillement.
Ah, j'ai cru que tu allais dire tous mes voeux de chasteté, non, quand même pas, j'ai eu peur. Bonne année Elie Habitbol.
Bonne année, merci de tes vœux. Bonne année à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. D'abord, beaucoup de santé, et puis de la joie, de l'argent, enfin tout ce qui va bien.
Et des Mac, et des Vision Pro, et des
iPhone 19.
Et puis on est quatre aujourd'hui, puisqu'on est rejoint par notre invité, notre premier invité de 2024. Et je suis très heureux que ce soit toi. Salut Baptiste Dajon.
Salut Benjamin, salut à tous. Bonne année en effet, et j'ai beaucoup de pommes à croquer je pense cette année, et en espérant que le Vision Pro pointe le bout de son nez avant la fin de l'année en Europe.
Et oui, c'est la raison essentielle de ta présence aujourd'hui. On va reparler avec toi du Vision Pro puisque tu es développeur sur les plateformes Apple depuis le tout premier SDK de l'iPhone. Tu es aussi évangéliste des techno Apple chez Decathlon. Tu es collectionneur Apple, on voit un petit Mac qui nous dit quelque chose derrière toi. Et puis tu es aussi le développeur ou co-développeur, je ne sais pas ce qu'il faut dire pour être précis.
On est plusieurs, oui.
Ouais, c'est ça, hein, de cette application qui s'appelle BandBrite. Ça veut dire bande passante en allemand. C'est quoi cette appli, Baptiste?
Alors, c'est un petit projet qui est né sur Twitter, sur X maintenant. En gros, il y avait un designer allemand qui s'appelle Philippe qui designait à chaque sortie de nouveaux bracelets Apple un poster où les collectionneurs pouvaient cocher les bracelets qu'ils souhaitaient et ceux qu'ils avaient dans leur collection. Et un jour, je l'ai contacté sur Twitter en disant « bah pourquoi pas une app ?» Et il avait déjà un concept d'application sous la main. Donc depuis la sortie de SwiftUI, donc 2019-2020, on est plusieurs développeurs à avoir amené cette application à la vie. Et donc elle est disponible sur l'App Store gratuitement et ça permet de suivre votre collection et votre liste de souhaits des bracelets Apple officiels.
C'est sympa. C'est sympa. Donc on redonne l'orthographe peut-être pour ceux qui sont pas forcément germanophones.
Oui, c'est BAND comme un bracelet band et Brite donc c'est BRITE. Et voilà, c'est disponible partout. Il y a un petit moyen de donner un tips pour aider au développement. On est plusieurs, on a des gagnants de scholarship WWDC dans la boucle, etc. Donc pas mal de développeurs sur le projet. Et ça permet d'avoir les dernières actus de bracelets tout le temps dans votre poche.
Voilà, allez, typez Band Bright, vous aiderez l'équipe à laquelle tu appartiens. Baptiste, merci d'être là. On démarre tout de suite avec le gros sujet de la semaine, puisque tu l'as remarqué, Baptiste, on est entré en 2024.
C'est ça.
Ce début 2024 qui doit coïncider avec le lancement du Vision Pro aux États-Unis. Voilà, on peut dire qu'on y est là depuis le 1er janvier. Ça fait donc 4 jours maintenant. Dans une dizaine de jours, la formation des vendeurs, hein, on sait qu'ils seront deux par Apple Store américain, va commencer à Cupertino. Ça va durer 2 jours. Des cours intensifs pour apprendre comment vendre, comment présenter le masque de réalité mixte aux clients. On se doute que ça va être tout un parcours, une expérience à la hauteur du prix du Vision Pro notamment. On est donc peut-être, sans le savoir, à moins d'un mois du lancement. Alors, première question, Baptiste, avant de parler de tout le reste, comment est-ce que tu le sens en termes de timing? À ton avis, quel est le calendrier des prochains jours, des prochaines semaines?
Alors, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Sur la plateforme développeur, ça nous envoie des petites piqûres de rappel de temps en temps pour nous dire attention, ça va bientôt arriver. Actuellement, je pense qu'on est au stade des test flights. Donc, les développeurs qui ont souhaité développer pour la plateforme peuvent déjà mettre en place un test flight. Mais sur l'interface, on ne va pas plus loin pour le moment. Donc, on n'a pas tout ce qui est marketing, etc.
Oui. Donc, si tu devais parier sur une date, tu dirais quand?
Ah, le pari n'est pas facile. Je sais que Mark Gurman a visé fin janvier. Ça me paraît un peu optimiste, mais ça pourrait arriver. Mais le temps que tous les développeurs puissent mettre à disposition leurs applis avec le temps de review d'Apple qui pourrait être un peu plus sélectif, on va dire, sur les premières applis disponibles sur le casque, je viserai pour plutôt février, pour ma part.
Bon. Les amis, allez, première question piège de 2024 pour vous mettre dans le bain direct. Est-ce que ce petit break des réveillons a changé votre estimation du timing, Ellie?
Non. Mon estimation, c'est on ne sait pas pour la France, donc les États-Unis, on s'en fiche.
Bon, et pour les Américains, alors?
À la fin janvier, moi, j'y crois.
Ah, tu crois à fin janvier?
Ouais, j'y crois.
Tu penses qu'on est à moins d'un mois du lancement?
Oui.
Ah, et donc l'annonce que le lancement aura lieu fin janvier interviendrait quand, à ton avis?
Après le CES.
Après le CES. CES qui démarre dans 5 jours. J'y serai d'ailleurs la semaine prochaine pour une page spéciale et qui se termine le 12. Donc, à partir du 13, potentiellement, tu penses que ça peut arriver?
Oui.
Bon, Gilles, ton estimation sur le timing, qu'est-ce que tu dis là, à peine sorti du réveillon du 1er janvier?
Je serai de l'avis de Baptiste et de Mark Gurman avec une. Au moins des précommandes, des commandes fin janvier, toute fin janvier, et puis une mise à dispo début février, ce qui me semble, comme Baptiste, extrêmement optimiste. Moi, j'aurais plutôt pensé, à cause de problèmes de dernière minute, éventuellement au mois de mars, mais ça a l'air bien calé maintenant pour une sortie fin janvier, début février. Et Tim Cook a dû faire comprendre à tout le monde qu'il fallait mieux pas se rater sur ce coup-là si on voulait rester chez Apple.
Ellie, est-ce que tu penses que la date, elle est fixée chez Apple à l'heure où on se parle?
Oui, parce que les process marketing sont extrêmement complexes, de placement dans les boutiques, de mise à disposition des stocks qui vont être très morcelés pour le lancement. Comme vous savez, ça va être un appareil en kit. Les premiers, en tout cas, seront assemblés avec et devant les clients. Donc, tout ça, c'est un process qui se met en place et à mon avis, c'est prêt. Et puis, les dernières infos que j'ai lues, la production est en plein boom. Donc, ils sont assez optimistes sur le fait de pouvoir disposer de quantités qui finalement seront supérieures peut-être à ce qu'ils avaient prévu au début. Mais bon, pour le lancement, il n'y en aura pas 500 000. Hein. 500 000, c'est ce qu'ils espèrent et pourraient vendre la première année. S'ils arrivent à 150 000 pour le lancement, c'est déjà énormissime.
Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le dernier article de Jason Snell sur le site de Macworld. Selon lui, le lancement semble imminent, hein, donc il irait plutôt dans le même sens que nous. Ming-Chi Kuo, là on monte au 26 décembre, avançait que les premières expéditions en quantité partiraient la semaine suivante, c'est-à-dire qu'elles seraient déjà parties, en tout cas les premières caisses de Vision Pro seraient en train de se balader quelque part sur la planète, pour un lancement, effectivement, selon lui, fin janvier ou début février. Alors, il pose une autre question, Jason Sen, en tout cas, il y répond presque. Il dit, même si les 500 000 unités qui devraient être mises sur le marché se vendent cette année, bah, ce sera très difficile pour autant de parler d'un succès ou d'un flop. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Baptiste ?
Je pense que si les quantités sont limitées, c'est compliqué de voir si le succès est au rendez-vous, parce qu'on va forcément vendre toutes les unités. Donc, je pense que la demande sera là. Le succès sera celui que l'iPhone a rencontré à son lancement. Beaucoup de demandes, peu d'élus. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, moi. C'est pour ça que j'ai tweeté le fameux « ceux qui ne croient pas dans le spatial computing ont faux », parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est l'iPhone 1 des casques de réalité mixte et de la spatial computing.
Effectivement, alors c'est la question que j'allais te poser après, parce que mon envie de t'inviter, elle date effectivement de ce 19 décembre, quand je suis tombé sur ce tweet très simple, hein, que tu as publié, qui disait If you don't believe in spatial computing, you're wrong. En français, ça veut dire si vous ne croyez pas dans l'informatique spatiale, vous vous trompez. Alors, bah, peut-être qu'on peut revenir à ton intérêt, à toi, pour le Vision Pro et à la conviction que tu as. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'Apple a visiblement tout bon et est parti dans la bonne direction ?
Alors, je ne dirais pas qu'ils ont forcément tout bon, mais comme l'iPhone n'avait pas de tout bon à l'époque, on sent qu'il y a eu vraiment un coup de pied dans la fourmilière de ce que était le marché des casques VR et le peu de mixed reality qu'il y avait jusqu'à maintenant. Là, on a bien vu le pivot qu'a fait Meta sur son dernier casque, qui permet un semblant de mixed reality, spatial computing également. Donc je pense que ça a éveillé pas mal de monde, et il y a eu beaucoup de critiques également, comme l'a eu l'iPhone à l'époque. Et tous ces acteurs-là qui critiquent, plutôt que de se rendre compte que c'est en train de pivoter assez largement, font une erreur. Et je pense pas que le prix actuel du Vision Pro première génération sera un frein à l'innovation et à tout l'écosystème que ça va pousser par la suite.
Mais pourquoi t'as senti le besoin de publier ce tweet ? Parce que tu avais le sentiment que beaucoup de gens étaient en train de penser qu'Apple faisait fausse route ou
Oui, il y a beaucoup. Sur Twitter, en tout cas sur X actuellement, il y a la communauté de développeurs que je suis qui est fortement optimiste également sur la plateforme, et il y a ceux qui sont plutôt à se dire Apple se trompe, il devrait aller plutôt vers l'IA générative. Donc là, il y a Furet qui est sorti pour également montrer qu'Apple est sur les deux fronts. Mais je pense que ça va justement réunir ces deux mondes qui sont de à la fois avoir une informatique spatiale très performante qui amènera l'AI dans le monde réel, et un vrai assistant comme Siri peut évoluer dans ce sens.
Raconte-moi ton intérêt pour le Vision Pro. On rappelle que l'annonce a eu lieu début juin à la WWDC à l'Apple Park. Est-ce que tu t'y attendais ? Quelle a été ta première réaction ? Et depuis ce One More Thing qui est un peu entré dans l'histoire déjà, comment est-ce que tu as évolué sur le sujet ?
Alors moi, je suis le sujet de très près, de par mon métier déjà. Toutes les plateformes Apple m'intéressent, mais ça, c'est carrément une nouvelle dimension. On oublie les frontières d'un écran standard. Et là, l'expression « la limite est votre imagination » est très bonne pour illustrer ce qui pourrait être réalisé, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est le monde réel et le monde autour de nous qui permettra d'ouvrir de nouveaux usages. et Apple n'en est pas où il était à l'époque en 2007 quand l'iPhone est sorti et en 2008 quand le SDK a été poussé. C'est-à-dire que fort de son expérience sur iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, tout cet écosystème et tout ce que les développeurs ont pu construire sur ces différents sur l'écosystème Apple, c'est une force immense par rapport aux autres casques qui doivent faire leur preuve en partant de rien, en n'ayant pas forcément d'écosystème, parce que toute la communauté de dev Apple est très passionnée par ce qu'elle fait, et ils vont trouver un intérêt dans le Vision Pro d'une façon ou d'une autre, que ce soit en portant simplement leur appli iPad pour être tout simplement disponible sur le Vision Pro au lancement, ou faire l'effort supplémentaire pour aller plus loin et créer de nouveaux usages, et tout ça très facilement si ils ont suivi la tendance des dernières technologies Apple qui sont Swift et SwiftUI, ce qui est très très facile à mettre en place et à faire évoluer son appli dans le bon sens pour qu'il y ait vraiment une expérience très chouette sur VisionOS.
Mais tu sais, quand j'ai vu ce tweet venant de toi, je me suis dit, bon, le Baptiste, non seulement il l'a essayé, mais il travaille dessus.
Alors,
je
peux pas le dire. Mais de parler... Moi, mon métier chez Decathlon, ça va être de prouver que ça a un intérêt. Donc, je pousse fortement les décideurs chez Decathlon pour que l'informatique spatiale soit la next step. Decathlon a été assez en retard sur le monde du mobile. On est arrivé assez tard sur iOS, ne serait-ce qu'avec une appli e-commerce. Et là, j'ai pas envie que ça se reproduise sur l'informatique spatiale. Donc, c'est vraiment un coup de poker que je suis en train de jouer en interne chez Decathlon et dans ma vie professionnelle, de parier sur ce nouvel équipement et sur sa démocratisation dans les années qui vont venir.
Tout ça sans l'avoir essayé.
Je ne peux rien dire.
Bon,
il est fort, Benjamin. Il essaye jusqu'au bout.
On a déjà eu ce genre de discussion avec d'autres développeurs hein, qui sont souvent passés dans l'émission.
Est-ce que tu te rappelles d'un certain Marc Gurman à qui tu as posé cette question?
C'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais voilà, donc je tu ne le dis pas, mais donc je me doute que tu as essayé le Vision Pro et que tu travailles sans doute au moins sur un projet avec le Vision Pro, en tout cas pour le Vision Pro, qui a sans doute justifié ton tweet du 19 décembre. C'est comme ça que je l'ai ressenti, et je me suis dit, mais ce garçon est fortement intéressant. Bon, en tout cas, alors, il y a des choses que tu ne peux pas nous dire, mais depuis la fin de l'été, depuis qu'Apple a rendu disponibles les outils développeurs, est-ce que tu as le sentiment d'abord que tout est là pour que les développeurs s'emparent du Vision Pro, de Vision OS et qu'ils mettent leur imagination au travail pour créer les apps? Et deux, est-ce que tu as le sentiment que dans la communauté il y a un intérêt concret, c'est-à-dire des développeurs qui s'y mettent, parce que on dit qu'il y aura au maximum 500 000 de masques vendus cette année, par rapport aux centaines de millions d'iPhone. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour un développeur de mettre son temps dans une appli iOS ou iPadOS que dans une appli pour le Vision Pro?
Alors, ça dépend de l'application sur laquelle on travaille, si elle est portable uniquement sur VisionOS pour commencer, si c'est un tout nouveau projet, ou si on part déjà d'une application de l'écosystème Apple qui existe. Quand on parle d'une application qui existe déjà, le boulot supplémentaire, si on a déjà une bonne version qui respecte les guidelines de développement iOS, iPadOS, le travail est très minime pour avoir quelque chose de chouette sur VisionOS. Si on part de
même,
rien...
Même si l'environnement... Parce qu'il faut tout réinventer, on a l'impression.
Ça dépend les ambitions que l'on a dans l'application.
Ouais. Mais si c'est juste un portage, c'est peut-être pas très intéressant. Ce qui va vraiment être excitant, c'est les nouvelles applis qui ne peuvent exister que dans le Vision Pro.
Et ça, c'est les usages à créer, tout à fait. Ouais. Il y a des grands usages à créer. Le premier réflexe va être d'adapter l'existant. Et on va faire les premières erreurs, comme on a fait sur iPhone. Il y a eu la dose d'applications très mal foutues sur l'écosystème iOS. Sur VisionOS, en effet, on a des éléments d'interface similaires à iOS, mais on sent que c'est pas forcément fait pour être utilisé comme ça. C'est fait pour inventer de nouveaux usages, c'est fait pour pousser les limites de ce qu'on peut faire. Et Apple, en bon Apple traditionnel, attend beaucoup des développeurs tiers pour guider la voie et montrer vraiment ce qu'on peut faire.
Sur l'aspect rentabilité du développement pour Vision Pro,
Actuellement, c'est pas rentable, mais ça permet d'être prêt quand ça le sera.
Est-ce que tu connais des développeurs autour de toi qui ont le sentiment d'avoir l'idée qui tue, là, l'idée de génie
La killer app.
Ouais. Est-ce que vous en parlez entre vous, ou est-ce que chacun garde son idée pour lui?
Ben, y en a beaucoup qui gardent pour eux, je pense. Dans la communauté, c'est en ébullition actuellement. Il y a franchement la vraie communauté de devs passionnés de l'écosystème Apple est ultra motivée, ultra optimiste et voit ce que ça peut devenir. Mais après, là, j'ai pas encore vu de killer feature.
Ouais. Tu connais autour de toi des développeurs qui sont allés à Londres pour qui ont profité du lab ou à Munich, je crois. Il y a un autre lab à Munich pour l'Europe.
Il y a Londres et Munich pour l'Europe.
Ouais. Ouais. Est-ce que tu connais des gens qui y sont allés?
Oui, dans la communauté, il y a plusieurs développeurs qui y sont allés.
D'accord.
Oui, oui. Moi-même, je suis allé à Londres pour un des ateliers.
D'accord. D'accord.
Je peux juste te dire ça. Ça a été publié sur LinkedIn, c'est bon.
Bon, d'accord.
Je suis allé à Londres, mais je ne peux rien dire. C'est tous les et toute la communauté et toutes les personnes qui y sont allées, c'est autorisé à dire uniquement ça. Oui, ouais. j'ai été sélectionné, mais je n'ai pas le droit de rien dire de plus.
En dehors de ce que tu nous as déjà dit et de ce qu'on sait que tu ne peux pas nous dire, est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas nous dire qui sont précises, qui concernent le lancement, le timing, la manière dont ça va se passer?
Tout ce qui est communiqué aux développeurs, c'est comme ce qui est communiqué au reste du monde, c'est early 2024.
Ouais, d'accord.
Bon. Donc on n'a pas de deadline précise.
Bon, donc je peux te poser la question de manière beaucoup plus détendue. À ton avis, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle keynote pour le Vision Pro là dans les semaines qui viennent?
Moi, je vois bien Apple faire ce qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire embêter le CES. Donc, ne serait-ce que faire l'annonce d'une nouvelle potentielle keynote ou d'une date de précommande le jour du lancement du CES, comme l'iPhone, je pense, à l'origine, en 2007. C'était pas loin du lancement du CES.
Oui, oui.
Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose autour du Vision OS autour du Vision Pro d'annoncer au lancement du CES.
C'est intéressant.
C'était
ce que tu
le
dis,
9 pour le 11.
Vas-y, Gilles, raconte-nous, parce que j'étais en train de rechercher
C'était
infos.
Le 9 janvier pour l'iPhone, et je crois que le CES commençait le 11 janvier.
Alors, le CES 2007, c'était du 8 au 11.
Ah, voilà.
Et la keynote de l'iPhone, c'était quel jour?
Le 9.
Le 9, ouais.
Le 9 janvier.
Oui, c'est le 9.
Oui.
Oui, effectivement. Ah oui, je me souviens.
On y était en plus.
Ouais, je me souviens que j'avais... Alors, je ne sais plus dans quel sens j'avais fait ça, mais j'étais passé de l'un à l'autre. Oui. Mais ça avait été annoncé quand pour le 9? Tu te souviens?
La keynote du 9? Bien 9h. On savait qu'il y avait une keynote. On ne savait rien. Nous, on avait eu pour une fois une invitation à la Macworld, à nos frais. Et puis, on ne savait pas. Alors, je voyais Steve qui piaffait sur le côté gauche, face à moi, puisque j'étais du côté des photographes. Et puis, il monte sur scène et puis il commence à dire « We're gonna make some history this morning. Today, pardon. »
Today, ouais.
Et puis, c'est là où il a commencé à dérouler, quoi. Et puis là, tout le monde a... Toutes les mâchoires sont tombées par terre. Parce qu'on a vu... Le secret était gardé, quoi.
Ma question, c'est à quelle date la keynote a-t-elle été annoncée? La keynote qui a eu lieu le 9, elle a été annoncée quand? Combien de jours avant? Est-ce que tu te souviens de ça?
Bah, c'est la keynote traditionnelle d'ouverture de la Macworld, donc c'était noyé dedans.
Oui.
Donc on savait qu'il y avait une keynote parce qu'il y avait une Macworld.
Mi-décembre environ.
Tu as raison.
Mi-décembre, on a eu les invitations. Oui.
C'est pas une keynote qui a été annoncée quelques jours avant comme une keynote d'aujourd'hui, entre guillemets. Non. Ok, d'accord, oui, ok.
Donc la stratégie sera peut-être similaire.
Mais alors Baptiste, parce que là, on est le 4 janvier, là, à l'heure où on enregistre, le CES commence le 9, dans 5 jours. Si Apple veut faire un événement pendant le CES, donc avant le 12, donc d'ici 8 jours, ça veut dire que l'annonce serait imminente.
Ça serait peut-être court, l'annonce d'une future keynote.
Ah oui. Ah oui, il pourrait annoncer pendant le CES une keynote qui aurait lieu après, c'est ça que tu veux dire.
Oui, oui, une traditionnelle, un traditionnel communiqué de presse sur le site Newsroom pour quelque chose.
D'accord. Bon, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de croiser Gary Shapiro, le patron du CES, je lui parle d'Apple, je lui demande si Apple va revenir au CES à chaque fois. Il me dit non et il a l'air toujours très embêté parce que je crois qu'il craint cette concurrence, effectivement, d'Apple. Bon, on revient au Vision Pro. Ce qui est sûr, c'est que le lancement approche. Du coup, les fuites se multiplient, même si on le voit avec toi, Baptiste. Les langues restent très sagement dans les bouches. Et on parle de plus en plus de l'expérience qui est proposée par le masque. La dernière fuite en date, ce sont ces images. Peut-être tu les as vues, Baptiste, de l'utilisation de Safari. Dans le Vision Pro, elles ont été publiées sur X, donc l'ex-Twitter, par le leaker M1 Astra. Et bah oui, c'est vrai qu'on y voit toute la puissance du multitâche et du multi-fenêtrage dans cet espace 3D. Avec, alors, ça apparaît comme des onglets, mais en fait, on voit 6 fenêtres côte à côte et qui sont presque enroulées sur un espace presque cylindrique qui serait devant nous. Tu as vu ces images, Baptiste ?
Oui, je les ai vues, oui.
Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que ça t'a suggéré sur de nouveaux détails sur l'interface, sur la manière de gérer l'espace, etc.
Ah, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le simulateur Vision OS, c'est-à-dire que toute nouvelle fenêtre s'ouvre en arc de cercle autour de toi. Après, dans les guidelines de la plateforme, il est recommandé qu'une appli n'ouvre pas trop de fenêtres pour ne pas noyer l'utilisateur. Donc je pense que ça sera... Les applis en tant que telles seront limitées à une ou deux fenêtres maximum pour avoir un bon moyen d'utilisation. Mais c'est en effet très 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 puissant parce que, c'est comme je l'ai dit au début, le canvas, le playground, c'est la vie réelle. Donc tu peux vraiment faire du vrai multitâche, quitte à te déplacer toi-même pour avoir deux espaces de travail. Donc c'est très puissant pour le multitâche.
D'accord. Je repense à Londres. Est-ce que c'était à ton invitation ou c'est toi qui avais souhaité y aller pour des projets à toi ?
Les développeurs pouvaient demander à aller au labo. Allez. Et okay. On était sélectionnés.
D'accord, ok. Qui dit Vision Pro dit Vision OS. On sait que la première version de l'OS est en cours de finalisation avec des bêtas. Brian Tong de CNET a publié sur YouTube son troisième test du Vision Pro. Il l'a testé 3 fois, lui, depuis le mois de juin. Il a de la chance. Et il explique dans la vidéo que le dernier test qu'il a réalisé était avec une version de Vision OS qui était plus récente que la bêta 7, qui, à ma connaissance, est la dernière qui a été livrée aux développeurs, Baptiste.
Oui, oui.
Il n'était pas capable pour autant d'identifier cette version. En tout cas, c'est intéressant parce que la bêta 7, elle est arrivée, si je ne me trompe pas, le 12 décembre. Là, on est le 4 janvier. Il n'y a pas eu d'autres versions depuis. Comment tu l'interprètes ? Il y a eu un break de Noël ou...
Alors oui, il y a le traditionnel break de Noël chez Apple, mais ça pourrait sous-entendre des fonctionnalités qu'ils ne veulent pas fuiter dans les dernières bêtas. Ah. Souvent, ça peut arriver, ce genre de choses.
Ouais. Typiquement, il y a combien de bêtas sur un OS, une première version d'OS ? Est-ce qu'on a une idée de... Ça peut aller jusqu'à combien ? Plus de 10, 12 ?
Non, ça dépasse jamais. Je crois que c'est jamais arrivé, une bêta 10.
Non, il n'y a jamais eu.
Non, il n'y a jamais eu.
Ça veut dire que plus on approche de 10, plus on approche d'une version opérationnelle.
Potentiellement finale, oui.
Ouais, ouais. Ellie, toi, le fait que depuis la bêta 7, donc de avant la mi-décembre, il n'y ait rien eu, qu'est-ce que ça te dit ?
Que c'est assez stabilisé et je suis assez d'accord avec Baptiste. Donc là, ils doivent être en train de fignoler les petits détails et rajouter les killer features que personne n'a vu et qui vont faire l'effet waouh lorsqu'ils vont les présenter. Donc c'est trop proche pour qu'il puisse y avoir une fuite qui gâcherait la sortie ou l'annonce de la sortie en tout cas.
D'accord. Donc toi tu crois aux fonctions sous le capot qu'on n'a pas encore vues ?
Oui.
Ouais. Où est-ce que tu en es de ta réflexion autour de l'événement qui va accompagner l'annonce d'une date de lancement, etc. Est-ce que tu vois une keynote ? Est-ce que tu vois autre chose ?
Moi, je pense qu'il y aura une keynote qui pourrait être effectivement annoncée pendant le CES, ne fût-ce que parce que pendant le CES, il y a tous les journalistes de la Terre qui sont là-bas. Donc, si Apple arrive à en capter quelques-uns, non pas pendant, parce que là, ça serait la guerre ouverte avec Shapiro et l'organisation, mais...
Oui, mais ils s'en foutent.
Oui, je sais, mais ils vont leur dire, mais puisque vous êtes là, venez faire un tour chez nous, là. On est à côté. Ou alors, l'autre solution, ça serait
de... Ils se dépêchent, hein, parce que...
Sinon, il faudrait que pour quelques journalistes, mais vraiment triés sur le volet, Apple ait une suite... une énorme suite quelque part, ou qu'il loue, par exemple, Sphere et qu'il fasse un truc de malade mental en disant « Venez à Sphere, vous allez voir ce que vous allez voir. »
Alors, oui, alors, l'idée est bonne, mais Samsung l'a déjà eu parce que Samsung organise un événement dans la Sphere le lundi prochain, le 8.
Comme quoi, hein, dès qu'il y a un événement Apple, Samsung copie. Voilà. C'est malheureux. On n'a pas vu le casque encore de Samsung, hein, mais ça serait tardé.
C'est vrai, c'est vrai. Et il y a peut-être un lien, effectivement, avec le choix de la Sphere pour organiser un événement presse. Hein. C'est pas la conférence de presse de Samsung, c'est un événement presse, mais c'est un cocktail qui est organisé dans la Sphere, si je ne me trompe pas.
Waouh.
Donc, on va voir ce qu'on va voir. Je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que j'y serai allé avant notre enregistrement de la semaine prochaine.
Yes.
Ok, donc voilà pour Vision OS, les bêtas. Je reviens au test de Brian Tong, donc de CNET. Alors, il a été le premier, à ma connaissance, à tester le clavier. On avait vu le clavier au moment du lancement sur un plan, il me semble. Lui, ça a été le premier à pouvoir l'utiliser, si je ne me trompe pas.
Oui, on l'a essayé sur le simulateur, hein, mais ce n'est pas la même expérience que de l'avoir en vrai et pouvoir manipuler les touches avec le regard, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça. Alors, il explique qu'effectivement, il y a deux manières de faire. Soit on regarde les touches et on valide les touches les unes après les autres en rapprochant le pouce et l'index.
Ouais.
Soit on tape virtuellement sur le clavier avec les doigts de ses deux mains. Mais il dit que ce n'est pas très rapide. Mais ce n'est pas encore très rapide.
Parce que la main est recréée, ce n'est pas la vraie main qui serait en transparence. Ouais. En fait, les caméras voient vos doigts. Et en fait, comme ils font pour le visage, ils recréent en fait les deux mains. Et donc, c'est une expérience. Et ça demande beaucoup, beaucoup de puissance de calcul pour faire une animation de 10 doigts photoréalistes qui tapent sur des touches, qui font des choses sur une interface. Donc,
Ouais, Gilles ?
C'est typiquement une application, on va en parler tout à l'heure, mais c'est typiquement une application pour la recherche qui est en train d'être menée autour de Furette avec cette reconnaissance de zones d'images spécifiques et attribution de choses sémantiques. C'est absolument énorme ce qu'Apple est en train de faire là avec le casque, avec Vision Pro. Je rejoins tout à fait Baptiste.
Ouais. Baptiste, le clavier dans Vision Pro.
On l'a vu pendant l'annonce, hein. Il y a plusieurs moyens d'avoir de l'entrée sur le Vision Pro. Tu peux connecter un Magic Keyboard classique hardware pour taper comme tu as l'habitude. Il y a le fameux clavier digital. Utilisable avec les deux moyens d'entrée, donc soit avec les mains, soit avec les yeux. Mais je pense pas que ça soit le premier moyen qu'on va avoir d'interagir avec l'interface. Ils l'ont montré, touche en texte qui sera sur VisionOS, il suffira de le regarder avec ses yeux et de parler à Siri pour dicter dedans. Donc, on l'a vu pendant plusieurs fois pendant la keynote de la WWDC, l'input numéro 1 du VisionOS, quand ce sera pour taper du texte, je pense que ça sera Siri. Donc, malheureusement pour nous, pour le moment, c'est pas l'idéal et encore pire en français. Mais c'est pour ça que je crois énormément au travail d'Apple sur les modèles de langage, etc. Siri va évoluer énormément, je pense.
Ouais, on va en reparler, hein. Ce sera le sujet du bonus. Alors, il est réservé à nos soutiens sur patreon.com/sachawik, mais c'est une très bonne raison de les rejoindre et de nous soutenir dès cette semaine. À propos de ce test de Brian Tong, il s'est aussi intéressé aux vidéos spatialisées qu'on peut désormais tourner sur iPhone 15 Pro et Pro Max, à condition d'activer la fonction dans les réglages de la caméra. Il explique que ça consiste en fait à créer un flux à partir de deux des trois optiques de l'iPhone, hein. Donc ça donne quand même un fichier qui débite 130 mégabits seconde, je crois. C'est du 1080p à 30 images seconde. Ça ne fonctionne qu'à l'horizontale. Alors, il a l'air assez enthousiaste, hein, comme d'ailleurs Raymond Wang de Inverse.com, qui a aussi pu tester les vidéos spatialisées qu'il a lui-même tournées et qu'il a été autorisé à transférer via AirDrop dans un Vision Pro à l'Apple Park. Donc, la première fois qu'il avait fait le test, il avait testé des vidéos Apple. Là, il est arrivé avec ses propres fichiers qui sont passés par quelqu'un d'Apple qui les a transférés dans le Vision Pro. Et il disait qu'il avait dû retenir ses larmes, tellement c'était fort de visualiser ces images, en expliquant qu'il y a juste la bonne quantité de profondeur, ni trop ni trop peu de 3D, et les bords de l'image semblent se fondre dans le décor comme si c'était un rêve. Donc effectivement, on peut imaginer qu'avec des images, soit de gens qui ont disparu, soit d'enfants, une fois qu'ils ont grandi, ça peut avoir un côté effectivement hyper réaliste. Est-ce que c'est une fonction que tu as pu approcher, Baptiste, d'une manière ou d'une autre?
Non, c'était pas disponible.
Pas disponible. Tu as filmé en mode Vision Pro, on peut dire, sur un iPhone ou pas encore?
Sur l'iPhone, j'ai déjà activé pour toutes mes vidéos,
Ouais.
dans l'espoir de pouvoir les visualiser un jour comme ça.
Ok,
Et ils
je
sont très
comprends.
malins d'avoir permis que tu gardes quand même un mode de vidéo classique sur un non-Vision Pro
Mais oui.
et de pouvoir le transférer. C'est
Ouais, bon,
fort.
moi je vais partir à Vegas, je vais évidemment activer le mode 3D, ce sera sympa de pouvoir
Des
un jour
fois que.
les regarder dans un Vision Pro. Tu penses que cette fonction-là des vidéos spatialisées, tu penses que ça va être une fonction clé qui va faire vendre le masque, ou tu penses que comme les yaourtières, on va s'en servir deux fois et puis plus jamais?
Je pense que ça va se démocratiser. Ils ont été très forts de le rendre disponible sur iPhone. Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à l'époque de la keynote et de l'annonce du Vision Pro, où le père de famille filme ses enfants en train de jouer avec le gros masque sur le visage. Il y a eu beaucoup de réactions négatives sur ça en disant oui, mais le père, il a tout le temps ça sur la tête, ça va le couper du monde réel, etc. C'est bizarre pour les enfants aussi, qui vont se souvenir de ce moment de façon un peu bizarre au début, parce que ça ne sera pas rentré dans les mœurs. Mais le fait de le rendre disponible sur iPhone, de façon transparente, en ayant juste un bouton à appuyer, et la fameuse rumeur du vidéo button sur le prochain iPhone
Eh
vient
oui.
appuyer encore ça. Et du coup, ça permet de garder les usages actuels tout en ayant cette expérience du futur qui arrivera plus tard quand ça sera démocratisé.
Ouais. Bon, j'ai une dernière question à te poser, Baptiste, sur la Vision Pro, et je reprends la question que posait Alex Black il y a un mois sur Digital Trends. Est-ce que le Vision Pro et les masques suivants d'Apple vont remplacer le Mac ou le faire disparaître, à ton avis?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comme on l'a vu, on pourra projeter notre Mac actuellement, donc c'est plus un complément et un moyen de se redresser. Déjà, on est sur nos laptops toute l'année. On est un peu comme ça quand on n'a pas d'écran externe, c'est un peu mauvais. Là, le fait de pouvoir projeter dans les airs un écran, déjà, on va gagner une meilleure posture. Mais pour la suite, je pense qu'Apple va garder sa segmentation des OS et faire que ça soit un écosystème et pas un remplaçant pur et dur de l'écosystème. Moi, je le vois plus remplacer l'iPhone à terme.
Gilles, je te pose la même question.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Baptiste. Ne serait-ce que pour pouvoir développer des choses sur le Vision Pro, il faudra du Mac pendant un petit moment. On ne programme pas directement non plus sur l'iPhone. Il y aura une absorption de certaines fonctions. C'est plutôt l'iPad ou l'iPhone qui vont être un petit peu dépassés, qui vont transférer leur fonction usuelle, peut-être pas la communication, mais ne serait-ce que parce que c'est quelque chose d'ambulatoire, on va se déplacer avec.
Ouais. Se déplacer, enfin, pas dans le métro. Hein.
Non, mais on va bouger on va bouger dans une pièce. C'est ce qu'on fait avec un ordinateur portable.
Je pense que l'usage domestique sera la première étape. Et du coup, l'iPad a plus à craindre que l'iPhone dans un premier temps.
Intéressant. Ellie ?
Moi, je suis à moitié d'accord avec mes camarades parce que, en fait, ça ne va pas remplacer le Mac au début pour une question de prix, de disponibilité, etc. etc. À terme, ça pourrait remplacer un ordinateur. L'iPhone, oui, mais beaucoup plus tard quand on sera aux lunettes. Parce que le masque, vous ne pouvez pas l'utiliser dans la rue pour téléphoner à tout moment, etc. Quand on aura des lunettes, Apple, peut-être. Donc, entre les deux, il y aura une étape qui va durer plusieurs années. Mais par rapport à est-ce qu'on va l'utiliser trois fois et le mettre de côté, si on écoute Tim, et on ne peut qu'écouter Tim, lui, il dit qu'il s'en sert tous les jours. Attention, quel bon marketeur.
Pour faire son fitness.
Mais non, il y a, comment dire, on a un changement de paradigme, un changement de dimension. Depuis l'école maternelle, on nous apprend à ne pas dépasser des lignes, ne pas dépasser de la feuille, ne pas dépasser des bords. Et là, on a une représentation du monde à l'échelle de ce qu'est la vision normale. Donc il n'y a plus de limite à l'imagination et la représentation de ce qu'on peut avoir. Donc c'est comme pouvoir plonger dans une plage, sur une plage pleine de cocotiers tous les matins, parce qu'on a accès à cette plage. C'est évident que ce n'est pas la même chose dans une piscine, par exemple.
Mais ça marche jusqu'à un certain point parce que, Meta a essayé avec le métavers et ça n'a pas marché. Il y avait eu Second Life bien avant où on pouvait s'évader sur un univers. Si vous avez vu le film de Spielberg aussi, où on s'échappe dans un univers virtuel, ça va jusqu'à un certain moment parce que, à force de faire ça, sinon, on s'isolerait du monde, ça serait quand même assez triste. Donc, pendant qu'on travaille, pendant qu'on est concentré pour un besoin spécifique, lorsqu'on regarde un film tout seul à la maison et pas en famille, parce que sinon, c'est pas cool. Oui, mais si on devait faire ça tout le temps et toute la journée, à part le poids du casque et tout le reste, ça serait quand même un peu triste.
Ouais, Baptiste, là, on est sur un point de vue presque plus philosophique, mais... Où tu vois le curseur au bon niveau entre le métavers et le Vision Pro, quoi.
Justement, je pense qu'ils ont pris le contre-pied de l'approche de Mark Zuckerberg en disant Certes, on vous met des contenus dans votre environnement, mais ça ne bloque pas votre environnement. Et à tout moment, ils l'ont rappelé, pendant l'annonce, même quand on s'isole complètement, une personne qui se rapproche de nous apparaîtra tout le temps et pourra nous parler. Et je pense que c'est justement ce contre-pied qui a permis cette différenciation du Vision Pro et qui donne plus d'avenir à cette plateforme que celle de Meta.
Ouais, pour autant, alors, toute la techno qui permet de ne pas s'isoler, c'est une partie de ce qui coûte très cher dans la Vision Pro.
Tout à fait.
Et il est question que ça saute dans la V2 pour faire baisser les coûts. Donc, vous avez peut-être compris la même chose que moi.
Le eyesight, en effet, doit être très très coûteux. Après, est-ce que c'est vraiment le fait de voir les yeux dans un petit écran qui fait qu'on n'est pas isolé aux yeux du monde extérieur? Je pense pas. Le plus important, c'est celui qui est dans le casque, qui puisse voir le monde autour de lui. Ça ne changera pas. Et c'est ça le grand point gagnant pour moi de ce casque par rapport à un autre. C'est qu'on n'est pas coupé du monde. Et les gens qui sont à l'extérieur peuvent nous voir et interagir avec nous, même si c'est pas vraiment nos yeux qui sont sur l'écran externe, même s'il n'y a pas d'écran externe.
Bon, en tout cas, si vous appréciez notre modeste travail, chers amis, soutenez-nous et rejoignez la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aiderez ainsi à développer, à continuer l'aventure. La page iWeek, c'est sur patreon.com/iWeek. Elle vous attend. On remercie tous ceux, toutes celles qui nous soutiennent déjà. On a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour vous proposer toujours plus de contenu. Alors, on passe au journal de la semaine et on va commencer par... cette nouvelle qui aurait pu passer inaperçue, c'est juste une appli de plus. Il y a combien d'applis sur le store, sur l'App Store, Baptiste?
Beaucoup.
2 millions?
Oui, ça plus, doit être ça. Hein. Ils font du ménage régulièrement.
Ils font du ménage, mais il en reste encore pas mal. Cette appli, elle s'appelle Copilot et c'est Microsoft qui l'a mise en ligne il y a quelques jours sur l'App Store. Ellie, en tout cas, toi, tu l'as bien remarqué.
Oui.
Et parce c'est vrai que... qu'elle est. Alors j'avoue que je l'ai aussi remarqué, je l'ai installée tout de suite. Et elle est assez étonnante. Qu'est-ce qu'elle fait, cette appli Copilot?
En fait, déjà, elle vous permet d'utiliser ChatGPT 4.0. Donc, celui que les autres payent 25 euros par mois, si vous avez Copilot, vous l'utilisez gratuitement. Donc, déjà, 25 euros par mois. Et bien, parce que c'est Microsoft. Alors que OpenAI vous facture 25 euros par mois, Microsoft vous offre, parce qu'ils veulent que ça soit démocratisé, et ils veulent, surtout qu'il y a énormément de concurrents par-ci par-là, que les gens utilisent en fait ChatGPT 4.0. Et donc la version qui est disponible fait plein de choses. Alors évidemment, vous avez la possibilité de lui poser des questions comme avant, comme vous pouviez faire avec Bing ou à partir de Edge, etc. Mais là, c'est le vrai ChatGPT 4. Vous cochez ou pas le fait de pouvoir l'utiliser en fonction, si vous voulez, de la vitesse ou pas, parce qu'il vous prévient que ChatGPT 4.0 va vous répondre avec toutes ses nouvelles capacités, mais un peu plus lentement, voilà à quoi ça ressemble, que la version 3.5. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a les questions que vous pouvez poser avec, vous savez, le style. Est-ce que vous voulez une réponse plutôt artistique, plutôt très précise, etc., etc. Mais ils ont incorporé plein de choses dedans. Donc, la première chose qu'ils ont fait, évidemment, c'est que vous pouvez coller une image dedans. Et en fait, Copilot va l'analyser pour vous. Donc, un des testeurs, la première chose qu'il a fait, c'est coller une image d'une navette spatiale. Et à son grand étonnement, non seulement il l'a identifié comme étant une navette spatiale, mais il lui a dit laquelle, quand est-ce qu'elle avait décollé, etc., etc. Donc, c'est quand même assez poussé comme recherche. Hein. Donc, il y a toute la partie... que la plupart des utilisateurs n'ont pas, sauf s'ils prennent justement une option payante, qui est l'interpréteur de code. Donc, on va pouvoir utiliser Copilot pour faire des calculs, pour faire de la programmation. Vous allez pouvoir lui dire, fais-moi telle routine dans tel langage, en Python, etc. Donc ça, c'est assez fort.
Peut-être qu'on peut se tourner vers Baptiste pour cette fonction-là. Est-ce que ça a un intérêt pour toi? Est-ce que tu l'utilises déjà d'une manière différente ailleurs ou pas?
Ça, oui, on peut l'utiliser. Après, ça, dans mon cas personnel, ça m'a rarement fourni du code complètement fonctionnel. Il reste une expertise à avoir derrière pour recoller les morceaux de ce qu'il donne. Ça peut être un bon copilote, comme le nom de l'appli
C'est ça.
le laisse penser, mais ça ne remplacera, en tout cas pas pour le moment, un développeur pur et dur.
Ok, bon. Merci pour cette parenthèse, Baptiste. Ellie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec donc Copilot, cette
Ah bah on
appli
peut faire de la
Microsoft?
traduction si vous savez utiliser Google Translate ou DeepL ou des choses comme ça. Ben avec ChatGPT 4, en fait, on fait de la traduction d'exceptionnelle qualité. Vraiment, j'ai essayé dans plusieurs langues et ça marche vraiment très très bien. Autre chose qu'on peut faire, on peut générer des images. Donc, par exemple, moi, j'ai pris mon iPad parce que je l'ai installé aussi. Hein, donc, j'ai pris mon petit iPad. Et comme je cherchais quelque chose de très original, je me suis rappelé du Petit Prince. Et donc, je lui ai dit, dessine-moi un mouton.
Ok.
Et donc, j'ai eu mon petit mouton, très joli d'ailleurs, généré grâce à DALL-E 3.0. Alors, dans les fonctionnalités un peu plus compliquées qu'il faudra tester, mais qui ont beaucoup marqué, les premiers utilisateurs, il y a une fonction qui s'appelle Deep Search. C'est-à-dire que sur un sujet particulier, vous pouvez lui dire, fais-moi une recherche approfondie sur ce sujet. Et donc là, il va au-delà de ses réponses qui sont plutôt condensées, rapides, etc. Et il peut aller à fond sur un thème et interagir avec vous. Donc apparemment, les gens trouvent ça incroyable. Sinon, assez étonnant aussi, si vous avez Edge comme navigateur, parce que vous pensez bien que Microsoft pousse la technologie Microsoft, si vous avez regardé des vidéos sur Edge et si vous utilisez le même compte Microsoft aussi bien sur Copilot que sur Edge, puisqu'il vous demande de vous connecter, vous pouvez lui poser une question sur une vidéo que vous avez regardée, et là, il va être capable de vous faire un résumé de la vidéo, voire même une analyse sur une séquence, sur une scène, sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et apparemment, les gens sont restés sans voix par rapport à ce type d'analyse qu'a priori, ils n'avaient pas l'habitude d'obtenir. Et la dernière chose, on n'a pas tout exploré, c'est que depuis que Microsoft a racheté une société qui s'appelle Suno, moi, j'étais pas au courant, mais ils ont dû racheter ça par-ci, par-là. On peut générer de la musique. Donc, on peut lui dire, fais-moi une chanson pop avec de la guitare, un peu de basse, etc. Et il vous génère une chanson. Et apparemment, les gens n'en sont pas revenus de la qualité de la chanson.
Ouais.
Donc,
Pour
il faut qu'on
Baptiste.
essaye dès qu'on a un petit moment. On
Encore.
a peut-être le prochain tube de l'été dans nos mains, qui
C'est
sait?
ça. Bon,
Voilà.
Baptiste, toi, t'es musicien aussi, hein, en plus d'être développeur.
Oui, tout à fait.
Je vois une guitare, mais il y a un violon aussi ou un...
C'est un violoncelle électrique. Alors ça, j'ai pas encore commencé. C'est un cadeau de
Ah,
Noël et
vas-y, sympa.
l'autodidacte va commencer. Non, j'ai une formation classique sur de la clarinette à la base, et après j'ai diversifié piano, guitare, basse, etc.
D'accord. Bon, et je me demandais, parce que je l'ai évoqué, mais j'aimerais bien savoir quand même, le Macintosh qui est derrière toi, c'est quel modèle?
Alors là, c'est un classique. Là-bas, j'ai un 128. J'ai 228, les deux modèles qui sont sortis. J'ai un Apple II que j'ai trouvé dans une poubelle d'une université française qui jetait tous
Mais
ses Apple II.
non,
Ah bah
si.
si, bien sûr. Et du
Tu
coup,
traînes aux bons endroits, toi.
oui. J'étais étudiant à l'époque, je passais au milieu de l'université et
Ah
ça m'a
ouais.
attiré. Première pièce de collection rétro à l'époque.
Génial, génial. Bon, bah, on va continuer avec les autres news de la semaine. Et d'abord, quand même, cette mise en garde. Si vous êtes tenté par la bêta 2 d'iOS 17.3, n'est-ce pas, Baptiste?
Oui, non, je ne l'ai pas installé.
Ah bon, mais parce que tu as vu les messages qui disaient faites attention ou parce que tu as une prudence
J'ai une prudence de 24-48 heures depuis
Ah, voilà.
une certaine bêta d'iOS qui avait complètement retiré les services cellulaires sur des iPhones.
D'accord, oui,
Donc ça
d'accord, très
date
bien.
d'iOS 6-7, je pense, mais
Eh
voilà, ça nous rajeunit pas encore une fois, mais
oui.
voilà, faut toujours être prudent, et surtout sur des devices perso. Faites
Ouais.
attention.
Ouais, donc Ellie, la bêta 2 d'iOS 17.3, il faut mieux l'éviter là pour l'instant.
Oui, parce qu'en fait, plusieurs utilisateurs ont vu leur iPhone totalement briqué et donc Apple a retiré la mise à jour. Ils ont été super rapides et les plus disponibles. C'était ouais. trop risqué. Bon, donc il y en aura une autre. Hein. Ils vont corriger. Ouais, hein, ouais, mais, ouais. mais voilà, donc toujours ce délai de 24-48 heures. Et surtout pas sur votre iPhone principal, s'il vous mm-hmm. plaît. Ça coûte ouais, trop ouais. cher.
Et ça veut dire que, enfin, ça arrive souvent que des bêtas comme ça soient carrément, enfin, je vais pas dire dangereuses, mais en tout cas,
non, c'est rare. Franchement, c'est rare. Hein. Qu'il y ait des bugs, ça arrive. Que ça brique un téléphone, c'est rarissime.
Ouais. Mmh. Baptiste,
il y a eu 3-4 bêtas dans l'histoire de iPhone OS, iOS, qui étaient vraiment à éviter, donc dont celle-ci. Mais en général, c'est assez safe. Mais pour ceux qui veulent vraiment tester, privilégiez la bêta publique, qui est toujours un peu décalée ouais. par rapport aux bêta directes. Et celle-là est généralement assez safe.
Ouais, pour ouais, les bêta développeurs sont toujours à un stade plus avancé, mais aussi moins sécurisé que, oui. Que les bêta.
Surtout sur des devices où on peut pas faire marche arrière, genre des Apple Watch. Généralement, faut rester à l'écart des bêta si on sait pas ce qu'on fait.
Bien sûr, bien sûr. Autre news, Ellie, ça c'est un sujet que tu suis hein, parce qu'il s'agit de SpaceX. On se souvient oui. de l'accord entre Elon Musk et T-Mobile, l'opérateur mobile américain. L'idée, c'est de passer par les satellites Starlink pour avoir du réseau mobile même dans des zones blanches, c'est ça ?
Absolument. Et en fait, ça commence à être une réalité dans un endroit très, très, très ciblé, hein, qui va être précisé, puisque dans le dernier lancement qui a eu lieu il y a quelques jours, hein, en fait, 6 des satellites Starlink, sur les 52 qu'ils ont lancés, possèdent justement la capacité directe to cell qui permet à un utilisateur avec un smartphone de se connecter sur le satellite et pouvoir passer des communications. Donc 6 sur les milliers de satellites qu'il y a aujourd'hui Starlink en orbite. Donc il faudra vraiment être au bon endroit, mais je pense que c'est plutôt un test. Mais si ça marche correctement, probablement tous les prochains satellites qui seront lancés auront cette fonctionnalité que SpaceX activera au fur et à mesure progressivement.
Bon, en même temps, Elon Musk dit que voilà, c'est pas la solution miracle. Hein, ça...
Il dit que c'est pas aussi rapide qu'une connexion terrestre.
Voilà. Il faut pas s'attendre voilà, à ce que ça résolve tous les problèmes, mais voilà.
Non, il y aura du lag parce que ça va se connecter sur un satellite qui est en orbite et donc la personne, il faut ensuite qu'elle reçoive la communication, qu'elle vous réponde. Vous n'aurez pas cette impression de discuter en temps réel qu'on a avec un téléphone normal.
Ouais.
Surtout aujourd'hui où on passe par du Wi-Fi ou la fibre pour les communications téléphoniques, c'est encore la qualité encore meilleure. Donc, puisque vous avez vu qu'on fait des appels Wi-Fi sur les iPhones, à chaque fois que vous êtes dans un réseau, vous avez votre appel Wi-Fi ou 4G ou 5G, et la qualité est vraiment bonne. Ils appellent ça un appel HD, mais bon, ça c'est du marketing. Mais en tout cas, la qualité est bonne. Sur le satellite, il y aura un peu de lag.
Bon, vous avez remarqué que les annonces pré-CES ont commencé à tomber. C'est notamment le cas chez Dell, qui va sortir plusieurs nouveaux écrans, dont l'un de ces écrans semble se positionner directement en concurrent du Vision Pro, du display, du studio display d'Apple. La référence de cet écran Dell, c'est le U4025QW, à vos souhaits.
Yes.
C'est un 40 pouces, donc il est beaucoup plus grand que le studio display. Et il a quelques arguments pour lui.
Bah le prix déjà.
Bah oui. C'est quoi le prix comparé au studio display, Ellie?
Alors attends, j'essaie de trouver ça. Pourquoi j'ai dit ça moi? Ça m'apprendra à parler.
Je sais rien. Qu'on va le retrouver. Si si.
Si si. 2399 voilà. dollars, donc hors taxes. Mais il y a un modèle plus petit. Qui est un 34 pouces quand même, hein, donc c'est quand même pas... qui lui coûte que 1019 dollars. Donc,
comparé aux 1599 dollars hors taxe du
Surface. Donc, ils se sont placés des deux côtés. Bon, Samsung avait déjà sorti un écran similaire, mais j'ai regardé la photo du Dell, et c'est un écran très, très large, hein, donc assez joli, je trouve.
Ouais. Bon.
C'est ça qui est intéressant, oui. Ton lapsus était révélateur. À mon sens, c'est typiquement un truc pour développer pour le Vision Pro avec sa vision panoramique. On n'est pas sur un espace contraint de 25 ou 32 pouces avec le rapport hauteur-largeur de 16 leviennes. On est beaucoup plus large, du style Panavision pour les anciens films des années 50 ou 60, et du coup on est dans quelque chose de beaucoup plus immersif et on peut développer des contenus beaucoup plus en conformité avec ce que ça va pouvoir donner éventuellement sur un Vision Pro. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas.
Ouais. Baptiste, quel écran tu as toi pour travailler?
Alors, sur mon bureau perso, j'ai deux Apple Cinema Display 30 pouces de 2004.
Ouais, j'en ai un.
Les originaux. J'ai pas trouvé mieux et j'ai pas trouvé moins cher, surtout d'occasion, parce qu'actuellement, on en trouve facilement dans les 250-300 euros en bon état.
C'était les écrans Thunderbolt ?
Non, oui. C'était ceux d'avant.
Ah, ceux d'avant alors. Ah, ceux d'avant. Moi, j'ai le Thunderbolt alors.
Le Thunderbolt, j'en ai eu plusieurs et ils ont tous lâché au bout d'un moment. Ouais. Alors que les cinéma display introduits par Steve Jobs en 2004-2005 sont toujours vivants. C'est souvent les Alim qui lâchent, mais du coup c'est du bon vieux dual DVI avec 1000 adaptateurs que je suis obligé de mettre pour arriver à l'USB-C. Mais en tout cas ils m'ont jamais lâché et là j'en ai deux sur mon bureau et c'est un plaisir de développer dessus. C'est des 30 pouces 16 dixièmes en plus, donc c'est un plaisir.
Okay. Ok, super. Bon, tu serais candidat, toi, pour passer à un écran plus récent. Tu passerais sur Dell, par exemple ?
J'ai le Studio Display qui me fait de l'œil depuis un bon moment. J'attends une excuse technique d'un de mes 30 pouces qui pourrait potentiellement lâcher, mais il ne me lâche jamais. Mais pour passer à plus récent.
Bon, en tout cas, les dernières rumeurs disent qu'il n'y aura pas de nouveaux écrans Apple en 2024. Hein.
Non. Donc, le Vision Pro sera le nouvel écran des voilà. Utilisateurs Apple.
Exact. Et j'ai une autre info. Pour, a priori, les heureux visiteurs du CES qui vont se déplacer prochainement, dit-il comme ça. et donc pour Benjamin, c'est une spéciale dédicace pour Benjamin. Il faut que tu ailles voir le stand X-Reel parce que j'ai reçu une invitation que je vais te forwarder puisque moi-même je ne peux pas y aller. Parce que figure-toi qu'ils commencent à dévoiler et ils disent que par rapport aux lunettes dont on a déjà parlé à la dernière émission, ils vont annoncer un environnement spatial. Donc ça ne peut que t'intéresser et immersif. Et donc toutes les démos vont être faites sur place.
Formidable.
Voilà. Donc,
je te
tiendrai
au courant en temps réel.
Mais oui.
Merci Ellie. Bon, je profite de cet épisode pour vous rappeler que iWeek Express, c'est notre nouveau podcast en mode breaking news. Alors, c'est vrai que l'actu a été un petit peu calme au moment des fêtes, mais là ça va repartir très fort avec le CES dans quelques jours. iWeek Express, c'est le tout premier podcast indépendant d'information sur l'écosystème Apple. À la parution imprévisible, puisqu'elle est déclenchée par l'actu et par une info de dernière minute d'importance. Bah, quand elle arrive, on enregistre et on diffuse un nouveau numéro le plus vite possible avec deux priorités, du recul même à chaud et la plus grande réactivité possible. Voilà, comme par définition, on ne sait pas quand un épisode va arriver, c'est encore plus important de vous abonner. Et comme l'abonnement, c'est gratuit, eh bien, vous n'avez aucune raison d'attendre. C'est sur toutes les plateformes de podcast, iWeek Express. Et si vous étiez abonné à la quotidienne iWeek, évidemment, vous n'avez rien à faire puisque c'est sur le même flux. On passe à nos coups de cœur et à nos cartons de la semaine. Alors, Baptiste, tu as quelques instants pour réfléchir. Si tu as une bonne idée, un conseil, une app, pas forcément la tienne, qui t'a rendu service, que tu as trouvé génial, ou au contraire, un coup de gueule, c'est le moment ou jamais. Je me tourne d'abord vers toi, Gilles, parce que je crois que Tu veux nous parler d'un icône qui a provoqué une réaction mitigée chez toi.
C'est donc le petit dernier de chez Nikon, qui est le ZF, qui est difficile à, enfin, qui était difficile à obtenir jusqu'à ces derniers jours, même si ça va mieux ouais. maintenant, et qui est absolument formidable au point de vue qualité d'image. J'ai partagé avec vous une photo de nuit, de fête foraine, on va dire, de fête de Noël, à 51 200 ISO, il n'y a absolument pas de bruit, ah oui. ou très très peu dans les parties les plus sombres, avec ouais. zéro traitement d'image, que ce soit externe ou interne. L'autofocus est vraiment extrêmement rapide, extrêmement fiable. C'est un boîtier qui a l'air d'avoir plein de qualités. Et puis, il y a la politique de Nikon qui a enlevé le chargeur pour la batterie. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose,
bah, ouais.
quelqu'un. Mais dans le même temps, Apple n'a pas augmenté le prix de ses machines dans la même mesure que les constructeurs d'appareils photo, et Nikon en particulier, quoi. Voilà, c'était un peu.
Donc, tu veux dire, c'est la shrinkflation à la Nikon, quoi.
Exactement. Il y en a moins pour sur plus l'électronique. Cher. Oui. Alors,
c'est quoi l'augmentation de prix dont tu parles ? Parce que moi, j'ai pas idée de l'augmentation chez Nikon, par exemple.
Alors, un boîtier semi-pro ou amateur très très avancé en 2013. Il y en avait pour 3000 et quelques euros. Maintenant, on tutoie les 5000.
Ouh, un Vision Pro.
c'est à peu près ça. Même ouais, s'il ouais. a un peu baissé depuis 6 mois, c'est de cet ordre-là.
Okay. Bon, donc coup de cœur et aussi coup de griffe.
Coup de griffe parce que les 49 euros ou les 59 euros sont gagnés sur la bête qui finira par cracher au bassinet. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commandé d'occasion le chargeur du Z8, qui est exactement de la même génération et qui permet de recharger le même type de batterie que le ZF, et ça marchera très bien, et c'est un produit d'occasion, donc il n'y aura pas besoin de le fabriquer spécialement, et voilà, c'est dommage, je trouve.
D'accord, ok. Élie, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule?
Non, pas cette semaine, je n'ai pas, non,
tu
pas
en,
trop tu eu encore, le temps.
Tu es encore en pleine digestion du réveillon.
Ça doit être ça. Ou je suis en pleine digestion de mes médicaments, Doug.
J plus 4, oui, c'est ça, d'accord. Non, je te charrie. Est-ce que Baptiste, tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule pour nous ?
Alors, j'ai un coup de cœur, mais c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est l'Apple Watch Ultra 2. J'en ai profité des fêtes de Noël / anniversaire que pour remplacer mon Apple Watch Series 6, un peu vieillissante. Ah et ouais. avec les rumeurs montantes de l'Apple Watch 10, l'Apple Watch X, avec le changement de format de bracelet, toute la communauté des collectionneurs de bracelets Apple Watch et donc de bandes bretteux tremble actuellement avec toutes ces rumeurs parce que on a des collectionneurs assez ardus dans la communauté qui ont l'intégralité des bracelets qui sont sortis depuis le début.
Mais non.
Personnellement, j'en ai une centaine. Du coup, on a un peu peur, donc j'ai profité de prendre le dernier modèle compatible avec mes bracelets et on verra bien l'année prochaine.
Ah ouais, mais tu dis qu'ils les ont tous, c'est combien de bracelets
Alors. Donc dans la formidable appli Bande Bretteux, on met le nombre de bracelets sortis depuis le début. Il y en a 711, mais avec, avec les différentes tailles. Ouais. Donc on a des collectionneurs qui collectionnent l'intégralité des bracelets sur une taille de boîtier. Et donc, c'est facilement la moitié, donc 300-400 bracelets.
Wow. Effectivement, si le système change l'année prochaine, c'est pas une bonne nouvelle pour eux quand même.
Ben oui, j'espère qu'il y aura un adaptateur.
Bah, ah, ah bon ? Ah oui ? C'est possible ça, Ellie, un adaptateur de bracelet ?
Ça dépend comment est conçue la montre, hein, il pourrait. Ouais. Ils pourraient très bien. Hein. Tu sais, Apple, ils réfléchissent à leur base installée. Hein. Donc, s'ils ne veulent pas provoquer la colère des utilisateurs, après, il se peut qu'il y ait une rupture technologique qui fait que non, ce n'est pas possible. Mais.
Ouais.
On verra.
S'il y a des éléments de. S'il y a des éléments de capteurs et des choses pour relever les constantes et. Donner des indications supplémentaires. Là, ça va être compliqué, mais changer la taille des batteries, c'est une bonne raison pour poursuivre et amplifier la collection, peut-être.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ça faudra ouvrir une nouvelle catégorie dans l'application.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais oui.
Mais bon, Apple a connaissance de la communauté. Bandbreaker est utilisé en interne chez Apple et dans les Apple Store, donc on a souvent des gens qui nous remontent. Plein de choses sur l'application, comment les améliorer, etc. Il y a même j'ai eu un bruit de couloir comme quoi le studio couleur de sélection des couleurs des nouvelles déclinaisons de bracelets utiliserait Bandbreaker comme référentiel.
Ah ouais ? La classe !
Donc, ce n'est qu'une rumeur, je n'ai pas de confirmation. Mais chez Apple, en tout cas, interne à Apple, c'est utilisé.
D'accord. Bon, bah super. Bah, merci aussi pour ce coup de cœur et ça a permis d'en reparler. De mon côté, en fait, j'avais mis de côté ce. Alors c'est un coup de cœur sur un produit que j'ai pas essayé, donc je ne veux pas vous attirer vers une fausse bonne idée. Mais quand j'ai vu cette photo d'un négatif scanné dans un petit scanner posé sur un bureau à côté d'un Mac, je me suis dit « Ah, c'est cool, il y a encore des gens qui font des scanners de négatifs et de diapositives. » Et il se trouve en plus que la marque de scanner, c'est Kodak. Alors, j'ai été super étonné. J'imagine que la licence a été reprise par sans doute un groupe chinois qui fabrique ça pour pas très cher en Asie, mais... ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner sur Mac. C'est pas très cher. Alors aux US, c'est aux environs de $224. Il s'appelle le Kodak Slide and Scan. Et donc c'est un scanner qui accepte plein de formats de négatifs. Donc, en tout cas, trois, hein, le 135, le 110 et le 126. Et puis les diapositives, voilà. Et voilà, donc c'est un bon moyen si vous avez besoin de numériser vos vieilles photos qui sont dans des boîtes et dont vous ne savez plus quoi faire. Voilà, pas trop cher, il a l'air assez simple d'utilisation et j'imagine que ça fonctionne. Je l'ai trouvé sur le site de Cult of Mac et voilà, ça m'a juste fait plaisir de voir qu'il y avait encore un scanner de films et de diapos disponible dans le commerce. Ça m'a même un petit peu étonné. Pour ne rien vous cacher.
Il y en a un certain nombre, mais le modèle là qui est présenté est une évolution de choses qui existaient déjà et qui étaient brandées également Kodak. Donc, ils suivent le fil. Ce qui est important, c'est le logiciel. Est-ce qu'il est fourni avec ? Est-ce qu'il est bon ?
Là-dessus, je ne sais pas. C'était l'épisode 167 d'iWeek, la semaine Apple. Si vous aimez notre rendez-vous, abonnez-vous aussi à iWeek Express, notre nouveau podcast, sur toutes les plateformes. C'est gratuit aussi. On compte évidemment sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis sur Apple Podcast. Et puis bien sûr, toujours patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et pour nous soutenir. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Les habituels, Ellie Habitbol, salut Ellie, à très vite.
À très vite, merci beaucoup.
Et encore une fois, bonne année à toi et à toi aussi, Gilles Dounès.
Bonne année à tout le monde et c'était un plaisir encore une fois. Je vous dis à bientôt. Je suis content d'avoir fait la connaissance de Baptiste.
Eh oui, Baptiste, merci à toi aussi d'avoir été avec nous pour cette première de l'année.
Merci beaucoup pour l'invitation et puis je pense qu'on se reparlera assez vite suite à la sortie du Vision Pro.
Bah, j'en suis sûr. Juste entre nous, tu disais que tu étais un habitué, un fidèle que tu nous avais dans les oreilles depuis des années.
Mmh, tout à fait. Ouais. Depuis la minute iPhone en 2008.
Waouh, c'est vrai. C'était mon premier podcast à l'époque. C'est l'iPhone qui m'avait donné envie de me lancer. Et puis après, iWeek était arrivé en 2012 sur Watch. Et depuis 3 ans maintenant en podcast. Donc c'était d'autant plus un plaisir, Baptiste, de te rencontrer par visio interposée pour ceux qui ont l'image. On se dit à bientôt dans tous les cas.
Oui, tout à fait. Hein, à bientôt.
Ok. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Alors, Threads @iWeek.news, Blue Sky @iWeek.news.bsky.social. On est toujours sur X, ex-Twitter @iWeekNews. Et puis aussi Mastodon, @iWeekNews, @mastodon.world. Partout, un seul hashtag, iWeekLSA, comme la semaine Apple. À très vite pour la suite, à tout moment avec iWeek Express. Et donc, à la semaine prochaine pour l'épisode 168. Avec donc une page spéciale CES 2024, puisque je vous rejoindrai depuis Las Vegas. Salut à tous les amis, bye bye et à très vite. Ciao.
Bye bye.
Ciao.
Bye bye.